Alors, je m'appelle Sylvette Gaudichon et je suis responsable des collections, des collections et des expositions en art appliqué à la piscine.
Donc, une nouvelle exposition de céramique contemporaine qui est sud-coréenne. Donc, peut-être qu'on peut dire que la Corée, c'est aussi un grand pays de céramique qu'on ne connaît pas suffisamment.
Alors, la Corée serait le pays où est née la céramique, c'est ce que disent les Coréens. Alors, les premières céramiques trouvées en Corée datent de 9000 ans avant Jésus-Christ. Et dès 500 ans, par exemple, les Coréens inventent le four dragon, ce qui maintenant est, on le reconnaît un peu partout. Ils inventent ce four qu'ils vont vendre à la Chine et au Japon dans les siècles qui vont suivre. Et dès cette époque-là, peut-être même avant, les céramistes sont considérés comme des artistes. C'est vraiment un art. La céramique est un art, comme la calligraphie, ce qu'on connaît davantage ici. Mais la céramique coréenne est toujours, enfin on va dire toujours à 98%, une céramique qui est une céramique utilitaire. Mais il faut qu'elle soit belle. C'est-à-dire que l'utilitaire doit toujours être beau.
Donc on va dire dans une maison ou un lieu de vie, l'idée n'est pas d'avoir trop de choses, mais des choses belles qui nous entourent et qu'on utilise.
Qu'on utilise, qu'on offre, parce qu'il y a aussi beaucoup cette idée d'offrir aux visiteurs un bol, un beau bol. Et donc on va éviter d'avoir énormément de vases, il faut trouver celui qui vous correspond le plus beau. Et il suffit d'avoir un très beau vase. Donc ils vont toujours avoir cette idée de l'objet qui va vous correspondre et que vous allez garder toute votre vie. Mmh. Et alors vous en aurez d'autres, bien sûr. Mais il y a cet objet qui est fait pour vous. Mmh. Et alors évidemment, l'idée de beauté est très relative. Moi, je peux trouver beau ce vase et vous trouvez beau celui-là. C'est très, très relatif. Mais chacun va se reconnaître dans l'objet et va trouver une réponse à ce qu'il est dans l'objet, et l'objet du quotidien. Ce que je sais de ces artistes coréens, c'est qu'ils toujours se revendiquent d'un passé et d'une tradition qui leur est précieuse. Après, ils s'en détachent et ils deviennent là peut-être plus individualistes, mais c'est vraiment cette idée qu'ils sont le résultat d'une tradition et d'une culture coréenne qui leur est très propre et dont ils sont très fiers. Et la Corée du Sud actuellement a vraiment cette envie et ce désir de faire partager sa culture dans la céramique, parce qu'ici on présente de la céramique, mais aussi dans le cinéma, dans les séries, dans les dessins, les bandes dessinées. Donc il y a vraiment cette envie de montrer ce qu'ils savent faire et qu'ils savent très bien faire.
Alors pour la production, il y a un côté à transmettre les savoir-faire, mais il y a aussi un côté secret. C'est pas toujours évident de gérer tout ça.
Tous les céramistes, hein, c'est vraiment tous les céramistes ont aussi. Alors ce sont tous des alchimistes, quels qu'ils soient, parce que même les céramistes contemporains français avec qui je travaille me disent. Ce bol ou cette... Je ne sais pas comment je l'ai fait, ce qui est faux, hein, c'est totalement faux. Ils savent très très bien comment ils l'ont fait, mais ils veulent garder ce secret, ce mystère très souvent. Alors tous, je ne connais pas suffisamment bien les Coréens, mais je sais que les Occidentaux parlent toujours du feu, du mystère du feu, de la magie du feu. C'est vraiment un fantasme pour les non-initiés, parce que... Ils maîtrisent très très bien le feu, hein, c'est vraiment. Mais il y a toujours cette idée de magie, de la terre, de l'eau, du pigment et du feu et de l'air qui rentre dans la fabrication de pièces de céramique. Alors les Asiatiques initient très très peu les Occidentaux, par exemple au céladon. C'est vraiment le céladon et l'or pour les céramistes et c'est vraiment ils sont très conscients de ce pouvoir. De ce verre qui est absolument incroyable. Et ils initient très, très peu les Occidentaux vraiment à l'art du céladon.
Alors, ce qui est étonnant aussi, on a commencé à le découvrir un peu, hein, c'est que ces objets, une fois qu'ils sont abîmés ou cassés, ils ont une vie qui se poursuit de manière presque luxueuse.
Alors, ils sont même... leur vie change et ils deviennent encore plus précieux. C'est-à-dire qu'un objet en céramique cassé est restauré avec de l'or. Et pas pour cacher, mais pour montrer la plaie. Considère que c'est une plaie, que c'est une blessure, mais qui montre aussi que l'objet a vécu, que l'objet a été utilisé, que ce n'est pas quelque chose qu'on a mis sur une étagère pour le regarder. Et donc, il y a des objets qui ont 3-4 siècles et qui ont des cicatrices d'or. Et l'objet n'a jamais été jeté, il a toujours été utilisé. Il y a des boîtes à thé japonaises qui datent du XVIIIe siècle et qui sont absolument somptueuses. Et le couvercle est cassé et le couvercle a été recollé à l'or avec vraiment... on montre que l'objet a été blessé, mais qu'il sert toujours et qu'il est toujours aussi encore plus beau et encore plus utile.
Donc ça, c'est une philosophie. Puis ça peut aussi correspondre au fait qu'actuellement, il faut quand même faire attention à ne pas tout jeter.
Il y a ça. Il y a aussi l'idée qu'il faut respecter le temps. Et puis ceux qui ont fait des choses qui n'existent plus, qu'on ne connaît pas. Les céramistes sont de ces traditions anonymes, de ces grands maîtres qui sont totalement anonymes.
On peut peut-être, pour conclure, présenter de façon plus précise les artistes qui participent, voire même peut-être la personne qui a réalisé cette exposition, la commissaire.
Alors la commissaire est une Coréenne qui s'occupe d'une fondation en Corée pour les jeunes céramistes contemporains. Alors c'est avec le Centre coréen, culturel coréen de Bruxelles qu'on a pu montrer ces objets qui arrivent de Corée et qui ont été d'abord présentés à Andenne en Belgique, à côté de Namur, qui a un festival tous les 2 ou 3 ans. Avec le Covid, ça a un peu bougé, mais tous les 2 ou 3 ans, qui a un grand festival de céramique au mois de juin, qui dure 3 semaines. Et ils invitent tous les ans un pays, et cette année, c'était la Corée. Et donc, c'est le Centre culturel coréen de Bruxelles qui a permis qu'on puisse avoir ces pièces exceptionnelles. Et donc la commissaire est une jeune femme qui s'occupe d'une fondation qui est une fondation nationale pour le travail contemporain sur la céramique.
Donc dans ce qui est présenté au musée de la piscine, couleurs cachées céramique sud-coréenne contemporaine jusqu'au 4 septembre, on a plusieurs, on va dire, parties de ce grand plateau et des œuvres très différentes qui ont des spécificités. Peut-être qu'on peut en décrire quelques-unes, à la fois dans leur esthétique et peut-être dans leur fonctionnalité.
Alors, il y a cette œuvre que je trouve particulièrement... Alors, l'artiste s'appelle Ji In Han, et c'est... alors, normalement, il y en a 100. Nous, on n'en a pas 100. Mais ce sont des récipients à eau. C'est de la porcelaine blanche, très, très pure, avec des formes différentes, des petits objets... et donc ce sont des objets qui à l'origine étaient des comptes-gouttes pour mettre de l'eau dans les pigments pour les calligraphes, pour faire de l'encre. Et donc c'est des petits objets du quotidien et de façon qui ne sont pas des beaux objets de musée, mais qui sont absolument essentiels pour les calligraphes et qui sont des objets qui nous ne nous parlent pas vraiment, mais pour tous les Asiatiques. La calligraphie existe encore et donc c'est des objets qui sont toujours identifiés pour eux. Il y a toujours 2 trous, vous voyez dans les objets, il y a 2 trous. Il y a un trou pour que l'eau sorte et il y a un trou pour que l'air rentre. Parce que s'il n'y avait pas 2 trous, l'eau ne sortirait pas. Et donc il y a tous ces objets qui ont des formes différentes, qui sont plates, qui sont coniques, qui sont rondes. C'est ces petits objets qui servent aux calligraphes. Donc c'est vraiment des objets très traditionnels, mais avec une vision contemporaine.
Voilà, et l'encre était de l'encre de Chine, j'imagine.
Absolument, pas de Corée.
On peut peut-être poursuivre sur ces...
C'est une jarre qui est une... Alors la forme est très traditionnelle, c'est une réinterprétation d'une jarre qui est très très connue en Corée, qui est dans le Grand Musée de la Céramique de Séoul, qui est vraiment une pièce très connue, iconique, qui date du XVIIIe siècle et qui représente une jarre qui est décorée avec du raisin, des grappes de raisin. Alors, dans la jarre d'origine, il y a un singe qui joue. Et donc là, on a l'impression qu'elle a fondu, que le décor est en train de fondre, de disparaître. C'est vraiment la forme, mais tous les maillages qui a coulé, qui est vraiment voulu. Et on voit la chair de cette jarre. La peau disparaît, la peau donc qui est cet émail décoré, peint, disparaît petit à petit et on voit la chair. Et c'est vraiment, là aussi, pour les Coréens, nous, ça, on trouve, bon, c'est une très belle jarre, mais pour eux, c'est quelque chose de très... C'est comme si nous, on faisait couler le maquillage de la Joconde.
Alors, dans cette œuvre-là, effectivement, on peut dire qu'il y a un détournement de la tradition, et dans celle-ci aussi.
Alors, celle-ci, c'est vraiment aussi une... Alors c'est une pièce qui est aussi très traditionnelle, qu'on voit un peu partout en Asie. C'est alors c'est pas vraiment une jarre, c'est un bassin qui servait, je pense, à mettre des choses pour macérer. Enfin bon, et cet artiste l'a griffé, a vraiment fait. Les peaux sont toujours très lisses ou alors dessinées avec des engobes. Mais là, il l'a griffé. C'est vraiment une pièce où il y a des stries et il l'a complètement déformée. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle a été pliée. Que là, il a travaillé sur la terre encore humide et donc il a complètement écrasé. C'est un peu comme Picasso qui prenait des pièges chez Madura et qui écrasait et qui en faisait des colombes. Là, on sent que l'artiste s'est aussi un peu lâché et amusé. Et là aussi, c'est une pièce très traditionnelle de Corée. Ses formes un peu rondes et basses. Et là, il s'est amusé à déformer l'objet.
Avec un intérieur émaillé.
Avec un intérieur émaillé, très brillant, alors que souvent, ils ont des... L'intérieur est brut, plus mat, et l'extérieur est émaillé. Et là, il inverse aussi les codes. Ou alors, ce sont des objets qui sont bruts de toute façon. Il y a des bols comme ça, où l'émaillage est mat. Mais là, il a fait le contraire de ce qu'on voit habituellement.
Alors, ces objets avec des couleurs vertes plus ou moins claires ou plus ou moins foncées, c'est-à-dire presque un nuancier
de Céladon. C'est vraiment là, c'est un travail... que sur la matière, c'est-à-dire que c'est une artiste qui, sur des feuilles de papier très très épais, certainement de papier de riz, met tous les jours, très régulièrement, de la matière. C'est-à-dire que là, il n'y a vraiment que de l'émail, donc, qui est mélangé un peu avec la porcelaine. C'est ce céladon qui fait la richesse de toute l'Asie. Et donc, elle pose des gouttes tous les jours. L'épaisseur se forme petit à petit et le papier va absorber l'humidité qui est dans la matière. Et quand la matière va être complètement sèche, elle le cuit. Alors, c'est-à-dire que ça passe du tout cette couleur-là quand elle est posée sur le papier. Et quand la matière est sèche, elle cuit ces feuilles de papier qui vont disparaître, qui vont brûler. Et il ne reste plus que la matière qu'elle remet ensuite sur les papiers, ces très beaux papiers de riz. Et là, elle extrait complètement ce qui fait, on va dire, la richesse pour nous. Quand on regarde un objet en céladon, c'est cette richesse, ces verts, parce qu'on dit le vert céladon, mais il y a 20 verts céladon. Et comme le blanc, il y a 100 blancs différents. Quand, avec les émaux, on peut faire plein de choses. Et ce n'est pas complètement tous les verts céladon.
Et là, il y a aussi l'idée que chaque jour, on apporte quelque chose à l'œuvre ou à la vie.
Absolument. Et c'est cette patience, parce qu'il faut aussi attendre que l'eau disparaisse pour que ce soit, que le céladon soit magnifié. Il y a toute cette idée de temps qui est très, très importante chez les Asiatiques et qui l'est forcément, a fortiori, chez les créateurs, les céramistes coréens.